Super.
Merci, merci à vous, la louange. Bonne année. Je vous ai salué à certains et certaines individuellement, mais je n'ai pas pu le faire à tous, donc je voulais vous le souhaiter. Réfléchis, mais quels sont les vœux qu'on peut offrir lorsqu'on est chrétien? Parce qu'au fond, on a déjà tout reçu en Christ. Et vraiment, ma prière, mon souhait, c'est que nous puissions prendre possession, réaliser ce que nous avons reçu. Comme il est écrit effectivement dans Corinthiens, il est écrit dans les premiers versets, « Je rends grâce à Dieu, à votre sujet, pour la grâce que Dieu vous a accordée en Christ. Car en lui, il vous est devenu riche de toute chose, de toute parole, de toute connaissance. » Puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque plus rien. Nous en avons conscience cette année. Il ne me manque rien. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce. Aucun don de la grâce. En attendant, la seule chose qui nous manque et que nous attendons tous, la révélation pleine et entière de Jésus-Christ sur cette terre. Donc voilà, c'est au-delà de ça, bien évidemment, je pense à votre santé, à votre famille, particulièrement si elle est divisée, si vous avez perdu la relation avec quelqu'un, que ce soit l'occasion dans cette année de restauration familiale, nous l'avons vu. Que ce soit pour votre travail, que ce soit pour votre vie dans l'Assemblée, que le Seigneur soit abondamment dans votre cœur et dans notre cœur, et qu'il vous remplisse de toute bénédiction. Ce n'est pas un vœu, c'est une certitude. Et que nous puissions vraiment le recevoir. En tout cas, moi je me réjouis de passer cette année ensemble, et je me réjouis d'être là ce matin. Et soyez vraiment tous bénis. Donc on a commencé un nouveau cycle d'enseignement qui va durer tout le mois, tout le trimestre de 2018 et qui est sur l'épître de Corinthe, le premier épître aux Corinthiens. Donc je vous encourage à le lire et pendant les prédications qui vont suivre, nous pourrons prendre chapitre par chapitre, thème par thème, d'étudier cette grande épître de Paul, une des plus anciennes, et nous pourrons vraiment travailler la parole de Dieu. Il y a tellement de joie, et à travers cette épître, notre souhait au niveau du conseil, c'est qu'on découvre la joie de regarder, de lire, de voir le trésor de la parole de Dieu. Que ce soit aussi l'occasion pour vous de dire, mais oui, je la connais cette Bible, mais de dire, ah, et si je l'ouvrais pour la première fois, si je redécouvre la Bible, et si je prenais le temps de l'étudier. Et voilà, donc on pourrait suivre ça aussi dans les groupes de maison, mais on vous encouragera vraiment à lire cette épître tranquillement, attentivement, et de la méditer. C'est incroyable, enfin, on ne peut pas réaliser ce cadeau qui est cette parole de Dieu qui nous a été donnée. Et trop souvent, on passe ça comme un fait acquis. Sans réaliser de la qualité de ce cadeau. Alors vous voyez le titre de mon message, c'est le titre du trimestre aussi, « Ne vous appartenez plus, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus ?» Alors hier j'ai préparé mon message, hier après-midi, et il y avait sur mon ordinateur ce titre. Il y a mon fils dernier qui est venu derrière, il me dit « C'est quoi ?» Et je dis « C'est le titre de mon message. » Il dit « Ah !» m'a dit, t'es sûr qu'il va rester beaucoup de monde dans l'église? Je dis, en tout cas, j'ai choisi avec Norbert, donc on restera tous les deux. C'est vrai que c'est pas très vendeur, pas très glamour, comme on dit. Hein, et on va en parler. Mais c'est pourtant dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a été écrit. Et Paul le dit aux Corinthiens, qui semblaient peut-être avoir besoin d'entendre aussi cela. Je ne m'appartiens plus. Et j'ai le sentiment, et nous avons le sentiment, c'est pour ça que nous l'avons choisi comme thème, même si c'est provocateur. Alors, avec Norbert, on dit, ne savez pas que vous ne vous apportez plus parce que vous avez été racheté. La fin du verset, si tu reviens sur le verset de... Voilà. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Donc c'est sur ce thème que nous allons partager aujourd'hui. Donc on va commencer, je commence par le chaud, le plus important. Mais je crois que c'est important qu'on puisse réfléchir tous ensemble en cette nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à Dieu et à Christ? Et pourquoi j'appartiens à Christ? Et comment ça s'est passé? Donc, voilà. Donc on va lire ces deux versets en entier. C'est dans le chapitre 6. Vous pourrez relire tout le chapitre 6 parce qu'il sera intéressant que vous compreniez le contexte. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? On pourra faire un enseignement sur le corps, le temple du Saint-Esprit. Mais que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Dieu m'a créé corps, âme, esprit. Il y a deux mots que nous allons particulièrement étudier dans ces deux versets aujourd'hui. Appartenez et rachetez. Et mon enseignement va être tourné autour de ces deux mots. Appartenir et racheter. On va commencer par le deuxième, racheter. C'est logique, si vous voulez bien. Je pense à ce verset de Lévitique. On parle de champ, mais n'est-il pas écrit dans la parole que nous sommes la vigne du Seigneur? Le champ du Seigneur. S'il y a un rachat, c'est que nous étions déjà achetés quelque part. Vous êtes bien d'accord? Racheter, c'est que nous étions déjà propriétaire de quelqu'un. Eh oui, déjà là, on commence à comprendre que ce n'est pas si simple que ça. Hein. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus le racheter. Christ a décidé de nous racheter. À grand prix, dit la parole, il avait été. Il m'a racheté personnellement à un grand prix, qui est son prix. Pourquoi? Parce que nous étions esclaves. Nous étions achetés, nous étions vendus pour un plat de lentilles. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde et selon le prince de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, donc Paul se met dedans, et bien évidemment, je me mets avec Paul et nous tous ici. Nous tous aussi et nous tous ici. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Oui, nous étions tous des enfants de colère. Nous étions esclaves. Esclaves, c'est-à-dire, là aussi, on chante cela. Mais on dit, je suis serviteur, je suis au service. Le terme dans la Bible, c'est esclave. On voit hélas encore à la télévision ce que c'est, des marchés d'esclaves. Est-ce que ça a été dans le passé? On est la propriété d'autrui. On te vend, on t'achète. Tu n'es plus ta personnalité. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus qu'un objet. On ne te regarde pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu vas faire ou ce que tu peux faire. Et nous avons tous été esclaves ici. Esclaves du péché. Selon le train de ce monde, il est écrit. J'aime bien cette phrase, le train de ce monde. On pourrait dire le train infernal de ce monde, d'ailleurs. Et tellement ce train va vite. Mais nous sommes tous pris dans l'esprit du monde, dans la pensée du monde. Et dans le monde moderne, vous allez me dire qu'il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Il y a des dizaines de millions de personnes qui sont esclaves matériellement, y compris des enfants. En France, l'esclavagisme n'existe plus. Mais je suis convaincu que si l'esclavagisme n'existe plus, le monde moderne connaît aussi des nouvelles formes d'aliénation. Et nous sommes tous aliénés. Excusez-moi, mais dire les choses comme elles sont. Nous connaissons tous des nouvelles formes d'aliénation. Et le monde d'aujourd'hui connaît des formes d'aliénation. J'en ai mis quelques-uns, j'aurais pu en rajouter beaucoup plus. Sur le à droite, oui, la droite, pour vous, j'ai mis l'individualisme, argent et moi. Ça fait quasiment un petit bonhomme. C'est à gauche. Ouais, je savais que... ça fait un petit bonhomme. Mais c'est tellement, aujourd'hui, les éléments centraux d'un Français ou une Française. Moi, le culte de moi, l'œuvre du moi, on est dans le moi. Si moi, ça me va, si moi, je pense que c'est bien, si moi, ça me plaît, si ça me fait du bien, pourquoi vous seriez contre? Si moi, j'aime ceci, pourquoi vous seriez contre? Si moi, moi, moi. Jamais autant l'individualisme, la culte du moi, le culte de la personne, le culte de ma personne, de mon corps, n'a été aussi développé. Si tellement les mots, y compris de dévouement, de partage, deviennent des mots inconnus, hélas. Un monde où tout s'achète, tout se vend. Rarement, l'argent a pris tant de place dans la vie, dans notre vie personnelle et dans notre vie collective. On aurait fait ce schéma il y a 30 ans, il y a 40 ans. J'aurais pas mis bien honnêtement les mêmes mots. On aurait parlé du communisme, on aurait parlé d'idéologie. Mais là, rien de tout ça. Les gens, seuls, individuels, devenus marchands, objets de consommation, acteurs de consommation, j'existe que parce que je consomme. Alors, je vous ai fait peut-être cette blague, mais je peux vous la refaire, si vous supportez que je vous fasse deux fois la même blague. Moi, je l'ai trouvé drôle, moi. Vous me direz si vous la trouvez drôle. C'est quelqu'un qui a un accident de voiture, et puis il a une BMW, une super 700 BMW. La voiture est crashée, etc. Les pompiers arrivent, c'est pas Stéphane, mais voilà, les pompiers arrivent, etc. Et puis, ils viennent le voir, ils le sortent de la voiture, et le gars se met à effondrer en pleurs, etc. Et tout. Alors il dit, ça va, vous êtes vivant. Il dit, mais regardez, ma BMW, elle est foutue. Elle était toute neuve, j'ai craché ma BMW, c'est épouvantable et tout. J'ai perdu ma BMW, etc. Et tout. Alors le pompier dit, oui, d'accord, mais enfin, vous êtes vivant, regardez, vous parlez, etc. D'accord, vous avez perdu votre main et une partie de votre bras, mais vous vivant. Et là, le gars dit, et ma Rolex. Bon, c'est n'importe. C'est un peu noir comme humour. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité? Et j'existe par ma voiture, par ma Rolex. Je ne ferai pas de politique, donc je ne parlerai pas plus longtemps des Rolex. Mais elle est facile. Mais est-ce que j'existe par quoi et pour qui? Qu'est-ce qui m'identifie? Qu'est-ce qui me fait que je suis aujourd'hui? Mon travail? Mon compte en banque? Ce que j'ai acheté? Ce que j'ai acheté au supermarché? Ma carte de fidélité? Qu'est-ce qui fait que je suis? Comment je vois l'aliénation? J'avais été profondément choqué. Je me rappelle une fois, alors on avait été, je sais que c'était un lieu de consommation, mais bon, comme tout le monde, on a été, comme tout le monde, beaucoup, on avait été à Euro Disney. Bon, bah, les enfants étaient contents, puis c'est difficile d'expliquer que c'est pas bien aux enfants, etc. Et puis c'est aussi super en plus. Mais je me rappelle avoir été dans une boutique et j'avais été bouleversé. Parce qu'il y avait une dame qui venait pour la journée, qui était avec son argent tout en liquide. On voyait bien que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent en soi, et qui était avec ses enfants. Et elle avait tout son, et elle avait peut-être 200 euros sur elle. Et elle a dépensé tout ce jour-là. Et je me suis dit, c'est tout son mois qui est en train de passer là. Elle est en train de se faire plaisir et elle va, pour une journée de rêve, elle va peut-être s'endetter, être dans le surendettement, connaître des galères pas possibles, pas payer son eau, son électricité, pour acheter une peluche de rêve pour sa fille. Je la condamnais pas, je la jugeais pas. Mais je disais, mais quelle prison, quelle aliénation de nos sociétés modernes. Est-ce que nous sommes conscients du monde d'aliénation où nous vivons aujourd'hui? Tout ce que nous en sommes. Moi, argent, individualisme. Bien sûr, là aussi, mais ça va avec. Et puis j'en ai mis quelques-uns, mais j'aurais pu en mettre tellement. La sexualité, qui devrait être la chose la plus belle du monde, et qui est devenue tellement... qui a été abaissée, détruite par le Satan, parce que tout ça est l'œuvre de Satan. Il faut prononcer les mots qu'il faut. Les addictions, Internet, les addictions. Je discutais avec un psychologue qui m'expliquait que aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus capables, qui se réveillent la nuit pour vérifier leur iPhone. Tellement qu'il y a des gens qui sont totalement connectés. Alors, ma femme dire, peut-être que toi, il faut que tu fasses du travail. Sûrement. Mais ce que j'ai décidé, et elle le sait, c'est qu'au moins le matin, parce que c'est vrai que moi, j'étais plutôt voir les news, etc. J'ai dit, mais la première chose que je regarde sur mon téléphone, c'est la Bible. Voilà. Moi, je commence par ça. Voilà. Et pas de commencer à regarder mes mails, etc. Et voilà. Mais la tentation est réelle. On a dit nous tous tout à l'heure. Hein, donc je suis... les réseaux sociaux, l'existence sur Facebook, mon identité sur Facebook. Est-ce que j'existe par le nombre de likes et d'amis que j'ai? Ce monde fait peur. Ce monde fait peur par moments. Enfin, moi, il me fait peur. Et nous devons être conscients que nous avons des aliénations. Mais au-delà de ces aliénations, je reviens en arrière une seconde. Voilà. Je voulais relire ce verset. Selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air et de l'esprit. J'aime bien cette phrase. On voit bien que ça brasse de l'air, tout ça. Qu'il n'y a rien de réel. Et déjà, Romain avait compris. Et quand on voit la société, le monde, tout ce qu'on, on brasse beaucoup d'air. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas grand-chose. Mais nous sommes esclaves. Et nous avons besoin d'être libérés. Est-ce que nous sommes conscients de tous les jours des idoles que nous avalons? Paul parlait dans ce chapitre de manger des idoles ou pas, et de manger... Mais qu'est-ce que nous mangeons tous les jours à la télévision, sur les réseaux sociaux, par tout ce que nous entendons? Combien d'idoles nous avalons? De fausses pensées, de faux raisonnements, de fausses idéologies. Depuis le plus jeune âge, on nous vend une pensée unique qui est de plus en plus totalitaire. Je prononce les mots. Et si on n'est pas d'accord avec cette pensée-là, on est par nature extrémiste, hors du cadre, hors de la société. Et on est soit des arriérés dignes à disparaître, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la bien-pensante, la pensée bien-pensante d'aujourd'hui. C'est vrai dans tous les domaines. Et nous sommes dans une société où il est de plus en plus difficile de penser différemment des autres. C'est vrai par la puissance des médias, la puissance de l'informatique et du numérique. Est-ce que nous sommes conscients de ce que les sociétés comme Google et Amazon, etc., peuvent influencer notre vie? Ils peuvent partir d'influencer les élections. Et comment ils influencent ma vie personnelle? Il est temps peut-être que nous, en tant que chrétiens, on se pose des questions, les amis. Et qu'on n'avale pas toutes les choses à la bouche ouverte. Mais qu'on soit un peu critique. Et qu'on se dise, ah ouais, je suis peut-être aliéné. La consommation, la culture, l'école. Combien on fait avaler de choses dans les manuels scolaires aujourd'hui aux enfants? Sans parler de choses polémiques. Je reviens toujours sur ça, mais quand on apprend à un enfant de 6e ou 5e que son premier roman qu'on l'encourage à lire, c'est l'histoire d'un condamné à mort, tu te dis, ouais, on a un optimisme, on développe un optimisme parmi nos enfants, c'est incroyable. Quel esprit. Alors c'est Victor Hugo, c'était très bien écrit, mais bon, t'es pas obligé de lire ça en 5e. Même d'autres œuvres de Victor Hugo, plus amusantes, ils peuvent, compris des poèmes de Waterloo, des choses plus drôles même, que l'histoire d'un condamné à mort, et les dernières minutes d'un condamné à mort. Quelle pensée de mort on influence dans nos familles, dans nos enfants. Dans 3 semaines, on aura le plaisir d'avoir Joël Trefcon qui viendra, et parce qu'on a, pour parler des écoles chrétiennes, et je lui ai dit, mais viens bien prêcher. Parce que si on veut une école chrétienne, c'est pas parce qu'on veut une école parce que pour que ce soit plus joli, c'est parce qu'on pense vraiment que le modèle pédagogique aujourd'hui, qui est en train de développer pour les enfants, est catastrophique. Et qu'il faut qu'on s'en soit conscient. Quand je vois le système de la concurrence, il y avait un philosophe qui disait, mais quelle société on crée lorsqu'on pense que l'ensemble des élites est constitué uniquement par une concurrence féroce dans les prépas et dans les grandes écoles, où ils sont prêts à donner père et mère pour récupérer les cours avant son voisin. Quelle société on prépare? Quels dirigeants nous préparons? Lorsque même quand on les forme, les lois qu'on leur apprenne, c'est les lois du plus fort, de la manipulation, du mensonge. Qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce que c'est ça la société que nous voulons? Toujours du plus fort, du plus riche, du plus puissant? Est-ce que c'est cette société-là? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avalons comme idole jour après jour? Paul parlait aux Corinthiens, mais il pourrait parler des idoles que nous avons tous les jours chez nous. C'est logique. Selon le prince de l'air, la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que nous sommes conscients que derrière des gens, des personnes, et nous n'avons jamais critiqué ni personne, ni quoi que ce soit, ni aucun responsable politique. Mais qu'il y a des esprits, qu'il y a des pensées, qu'il y a des modes de pensée qui sont totalement destructeurs et qui sont contraires à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre cela ce matin? C'est Romain, c'est les chapitres de Rome, de Romains de 1 à 6. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons été rachetés. Parce que là, je vous ai un peu plombé votre entrée. Mais vous avez prévenu, mon fils m'a dit, c'est pas glamour. Oui, c'est... Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le peuple dit... Oh, c'est le 6 janvier. Ah, allez un peu plus fort, soyez sympa quand même. Amen. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Et j'en ai rajouté un autre parce que je l'aime trop. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai... Franck, il a rajouté, c'est bien. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8. Amen. Voilà. C'est important de le redire. Et on peut le redire tous ensemble. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, après ce qu'il m'a dit, c'est quoi espérant? C'est Jésus-Christ. Ce qu'aux hommes n'est pas possible, Dieu l'a fait. Et les esclavages du temps des Grecs ou des Égyptiens, et peut nous sortir de l'esclavage aujourd'hui et de tous les esclavages que nous avons. Parce que vous appartenez à Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu. Et nous sommes appartenons à Dieu. Et c'est la seconde partie du message. Racheter, libérer du péché, de l'esclavage, mais pourquoi faire? Et là, c'est une seconde partie. Pourquoi faire? Prédication avec Pascal, il y a toujours un moment avec un film. Toujours. Et je n'ai pas pu m'empêcher. Dans un film, iRobot, le héros, à la fin, il a fini de gagner. Et il dit, à présent que j'ai réalisé mon objectif, je ne sais plus quoi faire. Dieu me rachète et me libère. Mais pourquoi faire? Et là, c'est une bonne question qu'il faut se poser, les amis. Et qui est encore peut-être plus compliqué que la première. Le début, c'était de l'apéritif par rapport à ce qu'on va vous dire maintenant. Libérer, pourquoi faire? Parce que nous sommes dans une société où on pense que la liberté est le bien suprême. Que nous sommes... Je suis libre, que c'est l'expression absolue. Et nous-mêmes, dans l'Église, parce qu'on nous a rachetés, on a parlé de sortir d'esclavage, de libérer... Des fois, on s'est arrêté à ce mot « libéré », sans dire à quoi ça sert la liberté en Christ, et la liberté chrétienne. Et que ce n'est pas la liberté pour la liberté. Il n'y a pas, alors je reprends cette expression-là, il n'y a pas de no man's land dans les mondes spirituels et sur cette terre. On ne peut pas, on est esclave du péché, on nous rachète, mais ce n'est pas pour rester au milieu. C'est pour être acheté de nouveau. C'est pas pour rester dans une neutralité, ni l'un ni l'autre. Ça n'existe pas, un troisième royaume. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il n'y a pas un troisième, l'entre-deux n'existe pas. La vérité n'est pas entre deux mensonges. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de no man's land. Je fais plus le mal. Ça ne suffit pas. Je suis acheté par l'un ou par l'autre. C'est-à-dire, c'est pas très agréable. On va en parler. Et il y a eu beaucoup de prophéties, beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient intéressantes à ce sujet-là. Mais la liberté n'est pas le but suprême de l'homme. La liberté est un moyen, pas une fin. Et là, trop souvent, nous considérons la liberté comme étant le but final de ma vie. Oui, je suis né pour être libre, mais on chante « Je suis né pour être aimé et pour aimer ». Oui, Dieu veut que je sois libre, mais pourquoi faire? Parce que Dieu veut ma liberté pour que je choisisse, pour que j'aie le choix et non plus un non-choix, que je choisisse de croire déjà. Parce que sans liberté, je ne peux pas croire. Sans liberté, mon choix n'a pas de sens. Ma foi n'a pas de sens. Dieu me libère pour croire. Il me libère pour choisir, pour me donner à Dieu, libre d'aimer Dieu, libre d'aimer mon prochain. La liberté en Christ, c'est une liberté qui m'amène à entrer dans un nouveau royaume et à appartenir à Christ. Et je me donne librement. C'est pour moi très important qu'on parle de toutes ces questions-là. Être libre, c'est être responsable. Libre de croire. On va reprendre ces 5 points. Quand je fais les enseignements dans Espoir Plus, je dis, mais la repentance, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trop souvent, on croit, mais si je fais quelque chose, c'est pas de ma faute. C'est à cause des autres. Si je suis... c'est l'histoire d'Adam. Il prend la pomme, il dit, c'est la faute de ma femme. Ça arrive encore souvent que les hommes disent, c'est la faute de la femme. Pour plein de choses. Il ne va pas marquer. Et quand on fait du... On le vise vers ça. Ah si, mon mari était autrement. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de la société. Si je fais ça. C'est la faute de mon éducation. C'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Mais ce n'est pas ma faute. La première liberté que Dieu me donne, c'est de me repentir et de reconnaître que je suis responsable de mes actes. Ça peut paraître... Mais c'est extrêmement important. Et le christianisme, c'est une liberté d'accepter qu'on soit responsable de ses actes. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et d'assumer la responsabilité de ses actes. Et la responsabilité de mes actes a été que j'étais condamné et que j'avais besoin du salut de Jésus-Christ pour être sauvé. Et de la grâce de Dieu. C'est ma responsabilité. Et Dieu m'appelle à être responsable dans ma vie. Et ma liberté m'amène dans la responsabilité. Premier point, liberté de choisir. Prenons un exemple très concret d'aliénation, de suppression volontaire de liberté, le mariage. Par nature, le mariage est une diminution de sa liberté. Un couple qui se marie dans la première année, et quand on fait les préparations au mariage, on le dit, il y a un moment d'ajustement, parce que avant, j'avais l'habitude de prendre, je voulais aller voir un film, je prenais mes clés de voiture, j'y allais. Je voulais aller quelque part, j'allais tout seul. Et puis là, je voulais voir un film, mais non, moi j'ai pas envie. Ah, je dépensais 150 euros dans des disques. Ah, mais non, chérie. Et en général, les premières disputes, c'est sur l'argent. Des fois, hein, on est d'accord. Toi qui fais les préparations et Alpha Couple, toi, je commence à faire la pub. Voilà. Un mariage, on choisit d'abord le premier restriction de liberté qu'il y a dans le mariage, c'est quoi ? Réfléchissez. C'est que je choisis qu'une seule femme. Enfin, vous êtes au courant. Hein, c'est une seule femme. Un seul homme, une seule femme. Je me tourne vers les garçons, là. Non, mais je blague. Non, non, vous ne vous sentez pas du tout concerné. Hein, je suis totalement dans la blague. Un seul homme, une seule femme. Ça veut dire que toutes les autres femmes, je dis non. Je pourrais les rencontrer, les trouver jolies, elles pourraient être séduisantes, mais j'ai décidé que c'était elles et personne d'autre. Je restreins ma liberté ce jour-là. J'ai décidé, ma liberté, mon amour était plus important que ma liberté et qu'aimer était plus important que d'être libre. Être marié, c'est moins de liberté. Voilà, c'est la vérité. Mais c'est tellement mieux. Parce que c'est l'amour. Donc la liberté de choisir et d'aimer. La liberté de me donner à Dieu librement. De me donner à Dieu. Tout à l'heure, il y avait une prophétie sur l'autorité. En disant, mais tu as eu du mal avec l'autorité parce que tu as toujours vécu l'autorité difficilement. Pourquoi ces mots « appartenir », « vous ne vous appartenez plus », ça nous gratte? Pourquoi ces mots « obéir » nous gratte? Pourquoi ces mots « je vais servir » nous gratte? Parce qu'on a été blessés, tout ce que nous en sommes, sur les questions d'autorité, sur la question de l'amour, sur la question de l'appartenance, qu'on a peur d'être manipulé, qu'on a été compris dans l'Église. Il dit, le pasteur, donc, il dit quoi là? Et il veut en plus que je lui appartienne, il va me manipuler, puis demain il va me demander quoi? On a tous ça dans notre arrière-plan. Et si on ne l'a pas vécu personnellement, on l'a vécu pour d'autres. Est-ce que nous pouvons, et ça c'est vraiment une prière pour cette année, comprendre l'autorité selon Dieu? Et il y a un mois, j'ai prêché sur le fait que l'amour du Père est celui qui soutient par sa force et qui fait grandir par son amour. Et non pas qui contrôle par sa force. La force et la puissance de Dieu me soutient. L'autorité de Dieu est une autorité qui est bienveillante et qui n'est faite que pour mon bien. Est-ce que je peux savoir, réaliser qu'appartenir à Dieu est la meilleure chose qui peut m'arriver? Appartenir, donner ma vie, choisir librement de me donner à Dieu est la meilleure chose qui peut m'arriver. Ou est-ce que c'est encore des réticences? Sinon, bien évidemment, je ne vais pas vous demander de lever la main. Ne vous alarmez pas. C'est normal que vous ayez des réticences. Mais posez la question à Dieu. Change mon cœur. Guéris mes émotions. Restaure-moi. Afin que j'aie confiance que t'appartenir. Je mette ma main dans la main de Dieu et en toute sécurité. Libre d'aimer, de se donner dans la famille, dans le couple. Nous allons lire Corinthiens. Et je suis content, c'est intéressant qu'on commence par là, parce que vous verrez qu'au fond, que le fil conducteur de l'Épître aux Corinthiens, c'est cette question-là. Et c'est une question de chacun. Qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? Une église qui se naît, ça marche super. Il y a des conversions, ça vient de partout, de gens horizons très différents, avec des cultures très différentes. Ils ont reçu l'essentiel, Paul leur dit, vous avez reçu Jésus-Christ. Ils sont libres, libres de la loi s'ils sont juifs, lui libre des idoles et où il vivait en tant que grec. Ils goûtent à la liberté et ils ont décidé de vivre dans la liberté. Et quelque part, l'église de Corinthe, c'est une église qui grandit, qui est une église qui découvre la liberté et qui a du mal à la gérer. C'est une façon sympathique parce que ça déborde pas mal. Mais au fond, qu'on réfléchit bien, c'est ça la question. Et Paul, pendant toute son épître, va dire, non les amis, votre liberté, c'est fait pour aimer, c'est fait pour se pardonner, c'est fait pour s'écouter, c'est pour refuser la division. La liberté que Dieu, que d'enfant de Christ, c'est pas pour faire n'importe quoi dans vos cultes, mais c'est pour que vous soyez tous ensemble. Parce que vous êtes appelés à aimer. Libre d'aimer. On va avancer un peu parce que pour accomplir ce commandement-là, parce que voilà à quoi nous sommes tous appelés, à aimer mon roi, mon Dieu, mon Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Marc 12. Aimer, libre pour aimer. Aimer Dieu et aimer mon frère. C'est un programme colossal, mais c'est ça à quoi nous sommes appelés. Et si on voulait faire un mot, le chemin d'un chrétien, c'est ça. On passe de la dépendance à l'indépendance pour être interdépendant. Et trop souvent, dans notre vie spirituelle, nous arrêtons à la deuxième étape, l'indépendance. Sans accepter d'être interdépendants les uns des autres, à dépendre des autres et d'abandonner une partie de ma liberté, y compris dans l'assemblée. C'est la vérité? Paul le disait, c'est vrai pour Paul, c'est vrai pour Corinthe, c'est vrai pour l'Assemblée chrétienne de Nîmes. Est-ce que je suis prêt à être dépendant des autres? Ou est-ce que ma liberté est tellement précieuse, j'ai tellement peur de lâcher ma liberté, que je vais rester toujours un peu en lisière, parce que, oh là, je vais où après? Et si je pouvais faire confiance à Dieu? Je ne vous demande pas de me faire confiance, mais faites confiance à Dieu. Laissez un peu votre indépendance de côté et apprenez à être dépendants les uns des autres. En tout cas, on ne peut pas être membre, pas d'une association, mais du corps du Christ. Un membre ne peut pas être indépendant d'un autre membre. Et ça va être aussi les enseignements de Paul. Mais il y aura tous interdépendance. Ce n'est pas facile. C'est compliqué pour chacun d'entre nous, c'est compliqué pour moi autant que pour vous. Honnêtement, personne très envie. Parce qu'on aime tellement notre petite liberté. Mais ce n'est pas ce que nous a demandé le Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin que Dieu nous a demandé. Parce que c'est le chemin de l'amour. Et nous, quand on pense à l'indépendance, je vais rendre des comptes, etc. Oui, d'ailleurs, c'est bien de se rendre des comptes et de s'auto, enfin, comment on dit, s'auto-évaluer, etc. Mais au-delà de ça, c'est d'être non plus dans une relation individuelle, une relation d'amour et de relation avec l'autre. Religion, ça veut dire relier. La base de notre foi, c'est aimer. La base de Dieu, c'est l'amour. C'est la relation. Nous sommes un monde de solitude, d'isolement, où les gens en crèvent. La dimension spirituelle que nous avons apportée, et ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est que nous pouvons être collectifs, ensemble, un peuple. Pas moi, moi, mais nous, ensemble. Un nous. Être un nous collectif. Que notre assemblée soit nous. Et que le nous soit un en Christ. C'est un vrai défi. Mais c'est l'appel de Dieu. Et c'est notre appel pour cette année. Et c'est ce que, avec Norbert, avec les autres responsables et les autres anciens, nous avons vraiment à cœur. Entrer dans ce nous. Beaucoup de choses se font. Mais que tout se fasse dans un même esprit, dans une même vision. Ça va être du travail, mais on aspire à cela. Je vous exhorte donc, frères, parce que c'est cela, et ça revient à l'épître de Corinthe. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez qu'on est loin des 10% de la dîme. On me dit, est-ce que c'est combien qu'on doit donner? C'est zéro, c'est... Voilà ce que Dieu vous demande. C'est votre, toute votre vie. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Jésus-Christ. Nous apportons notre vie, notre cœur, notre âme à Jésus. Pour former ensemble, et que nous formions ici, humblement, on ne sera pas parfait, on aura toujours nos problèmes, mais que nous formions ensemble cette maison, cet édifice saint, cette maison spirituelle, qui est faite d'hommes et de femmes interdépendantes les uns des autres, et qui s'aiment. C'est l'appel, et c'est un objectif que nous avons pour le trimestre, à travers cette épître aux Corinthiens. Rentrer plus grande dans cette maison spirituelle et que nous soyons les uns et les autres interdépendants. Quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé, quelles que soient vos blessures d'église et les difficultés que vous avez pu connaître, et si on se donnait une seconde chance? Et si on se donnait une seconde chance? Ouais. Et si on disait, comme Paul, chiche, c'est possible. Voilà, mes amis, pour cette première prédication de l'année et mes souhaits. Je vous propose, il est tard, hein, je suis désolé, monsieur le président. Je rigole parce que chaque fois que je fais un message, je suis toujours dit, mais j'ai rien à dire et c'est trop court. Et puis, non. On va prier. Je vous propose tout simplement, je ne vais pas faire d'appel, on va simplement remettre ça à Dieu. La parole pour vous-même, pour moi-même, elle se suffit à elle-même, elle nous tranche. Elle nous fait des fois la tranche entre nous, mais c'est la parole de vérité. Et Seigneur Jésus, ce matin, merci pour ta parole. Merci parce que nous l'acceptons telle qu'elle est, sans vouloir la transformer. Et nous demandons, tu vois, c'est difficile des fois ta parole. Mais comme Pierre qui a dit, où irai-je, puisque tu as les paroles de vie. Nous voulons vraiment te dire, Jésus, ok, c'est vrai que tes paroles des fois sont difficiles. Et c'est tellement contraire à ce que nous avons tous appris. Mais nous voulons vraiment apprendre. Et nous te demandons, Jésus, ce qui n'est pas facile pour nous, fais-le dans ma vie. Apprends à ce que je sois dépendant les uns des autres. Apprends à ce que j'abdique un peu de ma liberté pour aimer, pour recevoir, pour choisir. Je te demande pardon chaque fois que je préfère ma liberté à toi, Jésus. Que je me contente d'une no-man's land dans ma vie personnelle. Apprends-moi, Seigneur, à être totalement donné à toi. Et je te demande pardon. Et je te demande vraiment de me renouveler dans ce point. Amen. Merci les amis. Soyez bénis tous.
Merci beaucoup, Pascal. Nous allons prendre la Sainte-Cène. Je voudrais Appelez les personnes qui ont été invitées à partager le pain et le vin à s'avancer, s'il vous plaît. Les premières personnes qui ont travaillé leur interdépendance, ce sont les disciples. Et Jésus les a réunis et ils ont pris ce repas ensemble avant qu'ils puissent partir. Il leur a annoncé qu'il allait partir puis qu'il allait ressusciter. Mais en tout cas, ils ont partagé ce repas avec lui. Et après, il les a envoyés sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et nous pouvons prendre cette communion et nous continuons à aller faire des disciples. Et l'exemple de ces disciples interdépendants, c'est l'exemple que nous devons avoir aussi dans notre Église. Je voudrais associer à ce temps de Sainte-Seine nos frères et sœurs qui ont été touchés par un ouragan en l'île Sainte-Marie. Pierre Jacquin, notre globe-trotteur que vous connaissez bien, a reçu un mail ce matin, ou hier, je ne sais plus, voilà. Il nous a dit qu'il faudrait qu'on pense à eux, parce qu'ils n'ont plus rien, les maisons ont été ravagées, les bateaux ne sont plus là, ils ne peuvent plus travailler pour le moment. Et leur premier appel, c'est qu'on puisse penser à eux, prier pour eux. Et puis ensuite, Pierre partira bientôt et puis on pourra les aider aussi matériellement.
Dans les temps de prière, il y a aussi prié pour les petits-enfants de Jeannette. Il y a Axel va mieux, il est sorti, mais son frère, qui a la même maladie, est rentré à l'hôpital ce week-end. Donc, prier pour Jeannette, qui est là, et pour ses petits-enfants, voilà, mais ça fait beaucoup. Alors, on pense bien à David et Axel.
Voilà, notre Seigneur n'oublie personne, connaît toutes choses. Merci Seigneur pour ce temps de communion, de partage. Et Seigneur, nous voulons aussi associer nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans la maladie, Seigneur. Merci de les accompagner, Seigneur Jésus, d'être auprès d'eux, et de leur donner ta force, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à passer.
Juste pour introduire ce chant que j'avais à cœur, qui dit « Mon Père, prends-moi dans ta main, garde mon chemin. » Si on peut faire aujourd'hui cette prière, c'est parce que Jésus est mort sur la croix, pour rétablir cette communion qui était perdue avec le Père et qui aujourd'hui est retrouvée grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur.
Mon Père, prends-moi dans ta main. Mon Père, garde mon chemin. Tout près de ton cœur. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas. Je sais. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Qui craindrais-je alors? Car pour toi, demain s'éveille encore. Oh, 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 oh. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celle d'en bas. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celle d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni
Je voudrais appeler Samuel Olive à me rejoindre, Christophe Gronesch, alors nous allons avoir un temps d'annonce, mais alors précis. Alors ensuite je vais vous dire juste les annonces de la semaine, vous les connaissez. Demain c'est le ménage. Il y a des réunions maison qui reprennent, il y a les cours d'hébreu, etc., etc. Ça, je vais vous dire, c'est le standard, c'est le minimum. Mais il y a plus. D'abord, je voudrais que Samuel vienne me rejoindre. Samuel va partir 6 mois en mission. Son petit frère en dessous, Erwan, est déjà parti. Il est en Grèce. Il est dans un camp avec des migrants, où il travaille au milieu de migrants. Et Samuel, il va prendre le bateau, c'est ça ? Voilà, pendant 6 mois. Il va voyager, il va avoir plein de beaux pays, mais aussi il va porter son cœur et apporter le Seigneur avec lui partout, En deux secondes, tu veux t'expliquer peut-être ?
Je te prends au dépourvu. Mais... Oui, là je suis un peu pris au dépourvu. Je vais participer à une mission avec Jeunesse en mission dans une base en Nouvelle-Zélande pour faire aider en Papouasie, faire des missions humanitaires. Voilà. Je ne sais pas trop comment expliquer autrement.
Et tu vas être dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je voudrais juste te prier pour toi et penser aussi pour Erwan. Seigneur, merci parce que tu es avec Samuel tous les jours et tu seras avec lui tous les jours, même à l'autre bout du monde, Seigneur, sur ce bateau. Et Seigneur, tu permets de le protéger et tu protèges aussi son frère Erwan, qui est en mission aussi, Seigneur. Merci de donner ta protection à ces deux frères, Seigneur. Ton nom puissant. Amen. Merci beaucoup. Tu nous raconteras. Hein. On attend le retour. Hein. Je voudrais laisser la parole à Christophe qui va nous parler sur l'espace Séguier, des nouveautés.
Bonjour à tous. Donc, voilà, je vais vous parler de quelque chose qui va commencer, pas ce jeudi, mais l'autre, le jeudi 18. On va faire une série sur l'évangile de Jean pendant 5 jeudis. On aura plus tard d'autres jeudis, on a appelé ça les jeudis de Nîmes, et pas ce jeudi 11, mais le jeudi 18, donc on commence une série de 5 soirées autour de l'évangile de Jean, des richesses de l'évangile de Jean. Voilà, alors j'y serai principalement avec aussi Fred Perrier, et juste je vais vous lire un petit verset tiré de l'évangile de Jean. C'est « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous ». Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alors voilà, donc je vous encourage à venir découvrir qui est Jésus à travers l'évangile de Jean, comment Jean nous a présenté sa grâce et sa vérité. Et vous verrez, la question principale de l'évangile de Jean, tout le temps, c'est qui est Jésus ? Afin que vous croyiez qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Ça s'adresse aux non-croyants, mais aussi aux croyants pour approfondir notre foi. Vous verrez, c'est très riche. Donc, c'est à l'espace Séguier, à la rue Séguier. Ça durera une heure, donc de 20h30 à 21h30. Il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin, et je vous encourage tous à venir pour partager les richesses de la parole de Dieu.
Merci beaucoup, Christophe. Nous avons une belle semaine. Je voudrais que Pascal puisse nous en parler de cette semaine de prière.
La semaine de prière, d'abord. Donc, semaine de l'unité. Le mois de janvier est traditionnellement avec deux semaines de l'unité, celle de l'Alliance évangélique et après des églises œcuméniques. Donc, vous avez un programme. Je ne vais pas vous raconter tout le programme, mais demain soir, nous sommes tous invités à venir à la Combe des Oiseaux, l'église baptiste, pour prier pour l'évangélisation. Il y a des belles choses qui se passent en termes d'évangélisation dans les églises de Nîmes aujourd'hui, avec des initiatives, y compris dans la rue, de plusieurs églises. Et donc, nous allons pouvoir prier pour tout, et ce qui se passe aussi dans notre assemblée, mais qu'on puisse être tous ensemble, prions ensemble lundi soir pour l'évangélisation dans Nîmes. Voilà. Et puis, il y aura aussi d'autres réunions, mais vous avez tout le programme. Et puis, la semaine prochaine, il y aura aussi d'autres réunions, mais je vous dirai plus. Un mot sur le week-end. Donc, alors on a un week-end avec un orateur, Yvan Carluer, qui est pasteur de l'église Martin Luther King à Créteil, qui est une église. Cette église, elle a 13 ans. Ils sont commencés avec 12 personnes. Ils sont aujourd'hui près de 1500 personnes en 12 ans. Une croissance tout à fait remarquable. Et donc Yvan qui se dépasse très peu son église, en plus quand il a des cultes, lui il a 5 cultes par dimanche, hein, donc il a le moral, mais là il a décidé de venir passer le week-end avec nous. Et donc on a plusieurs rendez-vous. Donc il y a à 14h30 pour tous les membres du collège de Martin Luther King, pour tous les responsables des groupes maisons, et je compte vraiment que vous soyez tous là. Et pour tous ceux qui sont dans une activité dans la commission louange, qui font la louange, donc vous êtes tous concernés ici. Hein, tous les moniteurs, tous ceux qui ont une activité dans le service de l'église, dans la peinture, etc., l'accueil, toutes les équipes d'accueil, on vous renverra, on vous demande tous de venir
à 14h30. On va avoir une rencontre avec lui et un enseignement sur quelles sont les clés, quelles sont les conditions de la croissance de l'Église. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à nous apprendre et à communiquer. Et le soir, nous aurons une soirée d'enseignement ouverte à tout le monde, y compris à l'extérieur, le samedi soir. Donc, vraiment, si vous êtes cons, donc vous avez compris qu'il y en a qui sont vraiment obligatoirement venir à 14h30, mais vous êtes bien évidemment, si vous voulez être là samedi à 14h30, vous êtes tous les bienvenus, il n'y a pas de problème. Voilà. Et nous aurons un culte dimanche avec lui, avec Yvan, et ensuite, nous aurons l'agape traditionnelle, mais toujours avec un plat principal, un dessert et la bonne humeur. J'ai rien oublié. 20h30, je l'ai dit. Je l'ai dit. Peut-être pas assez clairement, mais je l'ai dit. 20h30, samedi soir, avec Yvan Calvert. Voilà.
Merci. Pendant cette semaine de prière, il y a la soirée Fever avec les jeunes, ici, à 19h30, vendredi soir. Donc, tous les jeunes sont conviés à venir participer à ce temps de louange. Ensuite, il y a un nouveau groupe de maison qui s'ouvre chez Nicole Taboriech. Merci beaucoup à Marguerite. Voilà. Merci à Tabitha aussi, qui en fait partie, et tous les autres qui sont autour. C'est une joie de pouvoir ouvrir un groupe de maison. Merci beaucoup. Je vais juste prendre 2 minutes. Pour les 70 ans de vie commune que vous pouvez avoir. Alpha couple. 70 ans de vie commune, c'est pas mal. C'est jouable. Mais que Dieu nous prête vie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un couple, ça se construit. C'est 7 soirées. Alors là, ce sera 7 après-midi gourmandes autour d'un café gourmand, d'un thé gourmand, où on va venir partager 7 thèmes. Alors, je vais vous les donner. Voilà. Comprendre les besoins de l'autre, communiquer plus efficacement, grandir ensemble en résolvant nos conflits, guérir les blessures que l'on a pu commettre chez l'autre, repérer ce qui, dans notre éducation reçue, modifie notre relation avec l'autre, améliorer les relations à ma belle famille, développer une meilleure intimité sexuelle, découvrir les langages de l'amour de l'autre. Ce parcours se vit à 2 et vous êtes en tête à tête. Il n'y a aucun partage en commun. C'est votre vie que vous partagez à votre conjoint. Vous ne déballez pas votre vie à tous. Ça reste intime. Nous, on est là juste pour vous apporter les petits gâteaux, le petit café, vous recevoir, vous partager ces temps de lecture. Et après, si vous avez des questions, on est ouvert, il n'y a aucun problème. Mais c'est faire grandir son couple. Voilà le but. C'est votre couple va bien, vous voulez prendre un temps particulier, venez vivre cela. Vous voulez aller plus loin, avoir plus de rencontres intimes, venez participer. En juin, on a fait partager 4 couples qui ont vécu cela l'année dernière. Et je suis sûr que... D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là. Je peux en faire lever quelques-uns, comme ça, vous pouvez leur poser des questions. Là, il y a David. Je ne trouve, mais... Non, mais David, ça... Mais pouvez-vous lever ceux qui ont fait l'année dernière, hein, déjà, qui sont présents? Voilà, là, là, et là. Voilà. Ici, si, si, si. Vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez voir, mais... C'est sur inscription pour vous préparer ce bon temps particulier. À la sortie, vous trouvez les prospectus. Vous pouvez aussi venir me voir, voir mon épouse. Et vous avez à l'intérieur une adresse mail pour pouvoir répondre. Les dates, c'est une fois par mois. On a voulu quelque chose d'un peu plus léger pour qu'on puisse vraiment participer, que les gens puissent participer au mieux, prévoir dans leur planning à l'avance. Et c'est le samedi après-midi à 16h ici. Voilà, les samedis après-midi à 16h. Vous avez toutes les dates ici derrière. Nous attendons nombreux pour vivre quelque chose de merveilleux. Voilà ce que je peux vous dire. Ce n'est que du plus. Ce n'est que du bonheur à partager. Voilà. Je vous juste vous invite à vous lever, qu'on termine par la prière. Merci Seigneur parce que ta présence nous a réjouis. Merci parce que tu nous accompagnes encore tout au long de cette semaine. Amen. Soyez bénis et encore une bonne année à tous.